Une légère nausée se diffuse en moi, remontant des muscles vers la peau, comme un goût dans tout le corps, le goût acide d'une anxiété très corporelle qui comprime la cage thoracique. Sous le coup de ce dérèglement généralisé, je suis bien incapable de me situer, de m'orienter dans l'espace qui m'entoure. Et la maladresse des mouvements titubants que je fais alors pour retrouver l'équilibre est la conséquence de cette incapacité à me situer. Me sentant vaciller, j'essaie de maintenir ma verticalité, mais pour ce faire, je ne dispose que d'informations incohérentes, incompatibles, entretenant la sensation d'un mouvement pourtant illusoire, mais que j'essaie tout de même d'interrompre. Arthur Lockman est ce soir notre invité pour cette rentrée littéraire avec son essai magnifique intitulé « Toucher le vertige ». Et comme chaque soir, nous allons reprendre les bonnes habitudes et nous allons commencer en musique avec Camille. Le saviez-vous, Arthur ? Elle a composé une chanson qui s'intitule « Vertige ».
Je l'ignorais complètement.
Chloé, au sol, l'oiseau se cogne de
Avez-vous les pieds sur terre, Arthur ?
J'essaie de les garder le plus possible, mais le fait de garder les pieds sur terre, de les avoir sur terre, n'exclut pas qu'on puisse se sentir vaciller. Et d'ailleurs, le sommet d'une montagne, qui est l'endroit où la terre cesse face au ciel, est un des endroits où on peut le plus éprouver le vertige tout en gardant les pieds sur terre.
Quand avez-vous commencé à escalader la montagne ?
J'ai commencé avec les premières années de l'adolescence, d'abord avec beaucoup de réticence, puis petit à petit avec un peu plus
d'entrain. Personne vous obligeait.
C'était dans la culture familiale, j'ai résisté pendant quelques temps, et puis ensuite je me suis laissé prendre. J'y ai pris goût moi-même, tout en restant sur mes gardes, enfin, en continuant à éprouver une certaine peur, une certaine crainte, et parfois même donc le vertige.
Premier de cordée, évidemment.
Pas toujours, et ce qui est beau dans une cordée, c'est qu'on peut alterner. Le premier passe second ou troisième, et inversement. Et ça nourrit la confiance qu'on peut entretenir dans les membres d'une cordée.
En tout cas, ce second livre que vous publiez en cette rentrée littéraire, puisqu'il y avait eu un premier livre consacré à votre vie à la fois de philosophe devenu charpentier, et qui s'intitulait « Éthique du solide », maintenant vous êtes dans l'espace sidéral de la perte de soi, avec ce livre qui est à la fois philosophique mais aussi littéraire, et ce livre s'inaugure avec finalement un retour à l'enfance, à la haute enfance. Vous repartez, vous qui êtes maintenant un jeune homme, vous avez quel âge ? 30 ans ?
J'ai 35 ans.
35 ans. Vous repartez sur les chemins de votre enfance pour escalader la montagne avec une amie très proche. Vous n'avez pas fait ce voyage qui est un peu un voyage initiatique. Et puis vous repartez comme si de rien n'était, comme si le temps ne s'était pas écoulé. Et pourtant le temps s'est écoulé.
Je ne sais pas, ce n'est pas exactement les années de l'enfance, c'est plutôt le début de l'adolescence. Et puis ce récit, c'est le récit de ces 48 heures un peu charnières dans ma vie. C'est donc une ascension que j'ai réalisée il y a une petite dizaine d'années, avec une amie très proche, comme vous le disiez. Ces 48 heures charnières dans ma vie, où se sont passées des choses importantes et où j'ai pris des décisions importantes, c'était effectivement l'aboutissement, le terme de ma période d'alpinisme, qui aura duré une petite dizaine d'années, et à l'occasion desquelles j'ai effectivement revécu certains moments, certaines angoisses de l'adolescence, mais dans un cadre aérien, dans le cadre aérien de la montagne, de la haute montagne.
En haute montagne, on a l'impression qu'on est tout petit et qu'on n'existe peut-être pas beaucoup, mais on a l'impression aussi que quand vous marchez, que vous faites de l'ascension, Arthur Lockman, eh bien, vous vous posez peut-être dès l'adolescence des questions philosophiques. Est-ce que j'existe ? Est-ce que je marche sur la Terre ? Est-ce que c'est vraiment moi dont il s'agit, là, dans cet espace immense ?
Oui, l'alpinisme, comme beaucoup d'activités, et la charpente aussi, d'activités qui engagent le corps, sont à mon avis des bonnes manières de pratiquer la philosophie, de la mettre en pratique. Et c'est une des choses qui m'intéresse énormément, qui me fascine même dans la philosophie. C'est le rapport entre les concepts, ces notions abstraites, et la vie telle qu'on la vit. La vie concrète et la façon dont l'abstrait peut s'articuler au concret dans la forme d'une vie. C'est pas seulement nommer les choses et, avec un concept abstrait, c'est opérer une forme de sélection dans la profusion du réel pour lui donner une certaine consistance. Et cette ascension, au-delà d'avoir été un moment charnière dans ma vie, c'est aussi un moment où se sont incarnés certains concepts, comme celui du sublime ou celui du tissage à propos de la psychanalyse. Donc cet entremêlement, cet entrelacement entre le concret et l'abstrait, entre lesquels j'ai fait beaucoup d'allers-retours dans ma vie, entre la philosophie et la charpente, la philosophie et l'alpinisme, c'est le récit condensé de à la fois des angoisses adolescentes et une certaine pratique de la montagne, une certaine pratique du corps dans le rapport avec la nature.
Nous aimons beaucoup vous lire parce que vous pratiquez une philosophie sensorielle. Certes, il y a eu une histoire de la philosophie sensorielle, des sensations, et ce, depuis des siècles et des siècles, mais vous nous aidez à comprendre que percevoir, c'est penser son propre rapport à l'existence et pas seulement à son corps.
C'est intéressant de voir que la philosophie, et en particulier à partir de Descartes, s'est intéressée à la perception, au rapport au réel, sensible, sous le seul angle de la vision, qui a un sens très détaché, désengagé. On observe à distance, sans contact physique direct, à part l'œil. Et puis on s'est aperçu, et plusieurs philosophes, et aujourd'hui des philosophes féministes comme Donna Haraway, se sont rendus compte et critiquent la vision comme une façon de maintenir une certaine domination dans le rapport au monde, de s'en sentir désengagé, à distance. Et par rapport à la vision, justement, à ce modèle de la relation au monde, le toucher offre une toute autre compréhension de ce que c'est que percevoir le monde. Puisque pour sentir par le toucher, il faut entrer en contact. Il faut aussi toucher, mais aussi se laisser toucher. Il faut exercer une pression. Il faut, comme avec une pièce de bois, par exemple, en charpente, travailler la pièce de bois pour en sentir la matière. Et on peut constater, et c'est aussi un des aspects auquel je m'intéresse dans ce livre, on peut retracer une sorte d'intérêt croissant de la philosophie pour le toucher et de remise en cause de la primauté de la vision, parce que le toucher, c'est un sens engagé qui renseigne bien davantage, bien plus exactement sur la façon dont on se rapporte au monde. C'est-à-dire non pas une perception passive ensuite traitée, administrée par l'intellect, mais un rapport engagé, toujours actif, qui mêle à la fois les sens et l'intellect dans le rapport au monde.
Alors, vous avez des phrases et des pages magnifiques sur le cogito de Descartes et sur sa façon dont il se décrit dans sa robe de chambre, devant sa cheminée, en train de regarder dans la rue les gens passer. Et puis, c'est effectivement par une faculté d'entendement qu'il se projette en voyant les gens. Il se dit que s'il voit des gens, il y a toute une chaîne d'argumentation philosophique pour arriver à la propre certitude de soi. Mais vous développez une autre manière de faire de la philosophie, vous faites l'éloge du toucher. Saviez-vous que Michel Serres avait développé dans son argumentation philosophique l'importance du toucher ?
Oui, et d'ailleurs, Michel Serres est aussi un grand alpiniste et a découvert ou raconte l'importance de l'alpinisme dans le développement de sa pensée et de sa philosophie, notamment à travers le toucher. Et a pris ses distances donc avec cette tradition philosophique de la vision où, comme vous le disiez, Descartes dans son poêle croit percevoir des formes et auxquelles ensuite son intellect, son entendement donne une interprétation et déduit de ce qu'il voit des chapeaux que sous les chapeaux se trouvent des hommes, ce qui opère ou repose sur une distinction assez arbitraire entre
les informations fournies par les sens. C'est-à-dire que là, il faut le croire, Descartes.
Il faut le croire. Mais ensuite, et c'est ce qui est tout à fait fascinant dans ces textes et que j'ai essayé de retrouver, c'est la façon dont il affole l'imagination pour mettre en doute l'ensemble des choses auxquelles on a toujours cru, les informations fournies par les sens, le simple fait de respirer, d'exister. Et puis, parvenu au terme de cet affolement méditatif, il convoque l'imagination pour construire la fiction du malin génie, ce dieu trompeur qui chercherait à nous tromper sur toute chose. Et donc après avoir affolé l'imagination, il y a une sorte de renversement dans lequel en vérité le sauvetage provient de l'imagination elle-même, bien canalisée sous la forme de ce malin génie. Et il y a un retournement qui en dit beaucoup sur le vertige, puisque le vertige, c'est pas la chute elle-même, c'est l'imagination de la chute, l'imagination affolée par l'idée d'une chute. Et si on arrive à canaliser ou à guider, orienter, engager l'imagination dans un certain sens, comme Descartes avec son malin génie, on peut reprendre un rapport actif avec le monde et sortir du vertige.
Je vous propose d'écouter la voix de Michel Serres à propos des cinq sens, et donc le premier selon lui, c'est le toucher. C'est une archive INA du 31 décembre 1985, et c'était au micro de Jacques Chancel.
Je suis plutôt une gigantesque oreille. Mon sens auditif est plus aigu que les autres. Je mets la musique au-dessus de tout par rapport à la peinture, la sculpture ou l'architecture. J'aime la parole puisque c'est mon métier. J'aime écouter. Mmh. Et par conséquent, je me perçois vraiment comme une gigantesque oreille avec une tête et quatre membres, n'est-ce pas ? Et donc j'aurais été amené à mettre l'ouïe d'abord. Mais j'ai fait l'inverse. Eh oui. C'est-à-dire, j'ai pensé que c'était ma subjectivité qui parlait là, que c'était mon habitude, que j'étais plutôt auditif. Alors j'ai réfléchi et je me suis dit que probablement le premier sens de tous devait être le toucher, parce que au moins la peau occupe un plus grand volume ou une plus grande surface que les autres. Et donc j'ai mis la peau en premier, le toucher en premier.
Le toucher, alors.
Le toucher en premier parce qu'il occupe réellement... nous sommes dans un sac de peau. Et donc, nous sommes dans un espace du tact. Le toucher, c'est tout à la fois, être horrifié par le monde, être baigné dans le, se plonger dans le monde. Je donne beaucoup d'importance, par exemple, à cette idée de plongement. Nous sommes dans le monde comme la baigneuse nue de Bonnard est dans sa baignoire.
Nous venons d'entendre avec délice la voix de Michel Serres qui explique que le toucher, c'est le plus important des sens.
C'est aussi le premier qu'on développe dans l'utérus, et auquel on peut revenir justement par l'exercice de la philosophie et l'attention qu'on accorde au toucher.
Vous voulez dire que le bébé, dans le ventre de sa maman, il peut toucher les parois ?
J'ai lu, puisque je m'intéresse en ce moment à la question, que c'est effectivement le premier sens...
Parce que vous allez devenir papa, bientôt.
Que c'est effectivement le premier sens que, avec lequel, à travers lequel on rentre en contact avec le monde.
Donc vous caressez le ventre de votre amoureuse.
En effet.
Et donc, Michel Serres vient d'expliquer ceci. Moi, j'en reviens à ce qui vous est arrivé physiquement il y a quelque temps et dont vous nous restituez les sensations, les perceptions, les émotions et les affects à l'intérieur de ce nouvel ouvrage. C'est quand vous êtes en haut de la montagne, là vous êtes monté en cordée avec votre camarade, et puis tout d'un coup, il vous tombe dessus, justement, ce fameux vertige. Il n'y a aucune raison pour que ça vous tombe dessus. Mais ce n'est pas Louis, comme vient de le dire Michel Serres, qui va vous alerter, c'est pas le fracas d'une pierre qui tombe dans le précipice. Non, c'est quelque chose de proprement corporel, mais aussi philosophique.
C'est un mélange d'énormément de choses, et c'est aussi ce mélange que j'avais à cœur de démêler ou d'exposer dans ce livre, puisque à cette période, certes, j'étais allé en montagne, mais il y avait aussi tout un ensemble d'éléments dans ma vie qui s'étaient joués et qui sans doute avaient contribué à l'apparition de ce vertige à ce moment-là. J'avais en quelque sorte fait le vide autour de moi, professionnellement, amicalement.
Vous aviez coupé.
J'avais coupé avec bon nombre de choses.
Et vous aviez disparu aussi ?
Non, j'avais pas disparu, et notamment le fait de partir en montagne avec quelqu'un est le contraire d'une disparition, comme dit Éric de Luca, le contraire de un. Non, mais c'est plutôt l'environnement autour de moi, cette coupure que j'avais réalisée, qui a contribué à ce sentiment de fragilité. Et qui a trouvé l'occasion du sommet pour se faire sentir sous la forme du vertige. Et à l'intérieur même de cette sensation, il y a tout un ensemble l'ensemble des sens contribue à l'apparition du vertige. C'est pas seulement la vue face au vide. C'est aussi le sentiment du grand souffle, l'air plus frais qui nous parvient quand on arrive au sommet. C'est aussi la transformation des sons. Quand on arrive au sommet, les sons se transforment, ne sont plus exactement les mêmes. Et donc, si on se rend attentif à ce qui se produit vraiment dans une sensation de vertige, on constate qu'il n'y a pas seulement la vue qui est à l'œuvre, mais l'ensemble des sens qui contribuent à nous faire percevoir le vide et à intensifier sa présence en nous. Et d'ailleurs, des personnes non-voyantes peuvent ressentir le vertige à travers notamment ce qu'on appelle le sens des masses, qui permet de repérer la présence de grosses, d'importantes masses, par exemple dans la rue, et d'éviter des obstacles auxquels les personnes voyantes ne sont pas particulièrement attentives parce que la vue, justement, permet de suppléer ou remplir cette fonction. Mais dans l'épreuve du vertige, qu'on soit voyant ou non, il n'y a pas que la vue qui joue, il y a aussi l'ensemble des autres sens, et notamment l'ouïe et la sensation de l'air puissant sur la peau.
Vous êtes objectivement en situation de difficulté, ça vous tombe dessus, vous avez l'impression que vous pouvez tomber, la chute sera fatale, et ça dure... Je ne sais pas combien de temps ça dure. D'ailleurs, vous ne le précisez pas à l'intérieur de votre livre.
Moi non plus, d'ailleurs, je ne le sais pas, et je crois qu'il y a quelque chose d'assez particulier dans le rapport au temps qui se joue dans la peur, toute forme de peur. Il y a certaines peurs dans lesquelles on a le sentiment que le temps se condense et que s'est passé beaucoup de choses en très peu de temps. Tandis que dans le vertige, il y a comme un rapport inverse au temps, où tout d'un coup, le temps ne s'écoule plus et on est figé dans l'instant. Et c'est quelque chose qui singularise le vertige par rapport à la peur, il me semble, à la fois cette fascination et cet effroi, qui en fait une expérience tout à fait particulière, pas simplement réductible à la peur.
Touchez-vous à ce moment-là la paroi de la montagne pour vous rassurer ?
À ce moment-là, j'ai perdu le contact avec mon corps et donc avec la paroi. Et ce qui est très fascinant dans cette expérience, ou une des raisons pour lesquelles je tenais à la raconter, enfin ça me semblait quelque chose d'absolument singulier, c'est que c'était le rapport à l'autre qui m'a sorti du vertige. Il y a quelque chose de très important dans l'altérité qui se joue avec la peur ou qui peut aider à sortir de la peur.
Oui, parce qu'il faut expliquer aux auditrices et aux auditeurs que vous étiez le premier de cordée, vous étiez enroulé à une corde avec votre camarade.
Et j'attendais ma compagne de cordée.
Voilà. Et elle s'est aperçue de rien par définition, puisqu'elle était très loin de vous, elle ne pouvait pas savoir
ce qui
se passait.
Tout à fait, elle n'avait pas deviné. Et c'est simplement en l'entendant arriver, en entendant sa présence et même son appel à l'aide, que j'ai pu être tiré du vertige et reprendre le contrôle de moi-même, reprendre l'action, redevenir actif, rétablir cet engagement dans le rapport au réel.
Et peut-être même, elle éprouve une certaine ironie, elle se dit que vous ne pouvez pas être en proie au vertige, vous ne pouvez pas tomber.
J'en ai beaucoup reparlé ensuite avec elle et c'est effectivement l'impression qu'elle a eue. Elle n'a pas vu que j'avais eu le vertige. Elle ne s'en est pas rendue compte puisque son appel m'a immédiatement fait sortir du vertige.
Mais elle avait besoin de vous, comme vous aviez besoin d'elle.
Tout à fait, c'est l'essence d'une cordée.
Je vous propose d'écouter la voix de Vladimir Yankelevitch qui va parler du vertige de l'homme devant ses propres pouvoirs. C'était au micro de Jean-François Kahn et c'est une archivina du 24 juillet 1979.
En tout cas, l'homme va aussi loin qu'il peut aller dans tous les domaines, n'est-ce pas ? Alors, quand il va aussi loin qu'il peut aller, il va à l'infini dans le domaine de la technique. Les avions toujours plus rapides, les engins de plus en plus redoutables, de plus en plus diaboliquement ingénieux, la parade à cet engin, la parade à cette parade, la contre-parade, comme vous le savez, c'est le petit jeu auquel se livrent les deux superpuissances depuis des années, et on ne sait pas où ça aboutira, n'est-ce pas ? Ce n'est pas deux pouvoirs différents que posséderait l'homme, n'est-ce pas ? L'homme possède un pouvoir infini dans le domaine de cette matière, mais l'autre partie de l'homme dont nous ne parlons pas et qui est essentielle, ce n'est pas un pouvoir comme le premier et qui s'opposerait au premier puisque c'est en partie grâce à ce pouvoir spirituel de l'homme que l'homme est capable de monter ses vagines. Parce qu'après tout, un renard et un hérisson ne seraient pas capables de monter des machines. C'est l'homme qui le peut, n'est-ce pas ? C'est donc la même intelligence qui peut les deux. C'est par l'intention qu'il diffère, parce que c'est un déséquilibre entre la puissance, la portée de mes pouvoirs, leur portée destructrice qui donne le vertige, puis en même temps un déficit spirituel. Tout le monde le sent, tout le monde le sait. Ce sont indirectement, ce sont des signes d'un déséquilibre, n'est-ce pas ? L'homme est désaxé, déséquilibré, il a le vertige devant ses propres pouvoirs, et il y réagit comme il peut en revenant au divin. Là, ce sont je n'ose pas dire des perversions, ça ferait de la peine à beaucoup de gens qui ne méritent pas qu'on leur fasse de la peine, après tout, n'est-ce pas ? Et puis c'est peut-être moi qui suis sévère. En tout cas, c'est quand même des déviations un peu pathologiques et impuissantes. Et le remède serait beaucoup plus simple. Il est dans la pureté des intentions, il est dans la bonté, il est dans l'amour de son prochain, le respect qu'on a de sa vie. Ça suffit largement.
Nous venons d'entendre la démonstration brillante, comme d'habitude, de Vladimir Yankelevitch. Le vertige est-il, selon vous, Arthur Lockman, la certitude de la finitude, de notre propre finitude, ou est-ce que c'est la conscience très cruelle de l'annihilation de soi ?
C'est une sorte de révélateur métaphysique qui, physiquement, se traduit par une sensation illusoire de mouvement. Alors ce mouvement, cette sensation peut être très physique ou bien plus métaphysique, plus abstraite, mais un révélateur métaphysique de la liberté et de la responsabilité qui en résulte pour le sujet. Et dans l'histoire de la philosophie, le vertige est une sorte de figure majeure, discrète mais majeure, de cette épiphanie de la liberté. C'est dans le vertige qu'on découvre, ou c'est notamment à travers le vertige qu'on peut découvrir sa liberté. C'est le cas chez Kant avec le sublime, qui est une sorte à la fois de révélateur et même d'exhausteur du sentiment de la liberté. Et puis, plus tardivement aussi chez Sartre, dans L'être et le néant, où le vertige est cette expérience du promeneur sur le sentier, qui se trouve retenu par les possibles qui s'offrent à lui, retenu dans la contemplation de ses possibilités de se jeter dans le vide, ou bien de continuer sa route sur le sentier. Et cette cette profusion des possibilités le retient. Et puis, ayant découvert sa liberté, il prend la décision de poursuivre son chemin. Et on peut retracer, donc, de Descartes à Sartre en passant par Kant, cette histoire du vertige comme révélateur de la liberté.
C'est le dépassement de soi vers des horizons insoupçonnés, le vertige.
Il y a par exemple dans le sublime kantien, dans la notion, le concept de sublime chez Kant, ce rapport ambigu, ce renversement du vertige en sublime, c'est-à-dire à la fois l'expérience, par exemple dans la contemplation du ciel étoilé, l'expérience de la limite des sens pour percevoir l'immensité suggérée par les étoiles qu'on contemple et qui se multiplie à mesure qu'on regarde le ciel, qu'on le fixe. Et puis ensuite, dans le déplacement de cette perception...
C'est d'ailleurs, puisque vous citez beaucoup Emmanuel Kant et sa notion du sublime, et la loi morale à l'intérieur de soi et le ciel étoilé au-dessus de soi, c'est d'ailleurs une sensation physique que n'importe qui d'entre nous, à n'importe quel âge, peut éprouver.
Oui,
ce vertige philosophique de regarder le ciel étoilé par une nuit d'été.
Alors, et Kant prend l'image du ciel étoilé, mais on peut prendre d'autres images de sublime, où on fait l'expérience, dans un premier temps, de l'effondrement ou de la rencontre avec les limites de ses perceptions, où on sent que le rapport au monde ou la perception du monde est dépassé. Et puis ensuite, le renversement, c'est-à-dire... Si l'on peut éprouver les limites de ses sens et pressentir qu'il y a quelque chose par-delà ces limites des sens, c'est qu'on a en soi une faculté, une disposition qui se situe par-delà les sens. Et c'est la définition classique de la liberté, la capacité à se déterminer indépendamment des sens.
Faut-il toujours éprouver sa propre liberté au risque du vertige ?
Je doute qu'on puisse traverser l'existence sans la rencontrer jamais et sans éprouver une certaine inquiétude face à cette liberté et à tout ce qui en découle pour l'existence. Donc, on n'y coupera pas sans doute, mais on peut apprendre à faire avec, à faire face à cette liberté et à sa manifestation à travers le vertige.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous allez écouter le choix musical de Arthur Lockman, ODD de PNL, un choix qui a à voir aussi avec le vertige.
Les couilles de l'Himalaya, bas les couilles, je vise plus sommet. Mon cœur fait oulala, crime passionnel que je commets. Sur ton cœur, je fais trou de poulette, je fais tache de sang sur le pull. Je désire nullement vous connaître, ni toi ni ces fils de pute. Je me tire d'ici si je m'écoute, sans corse mélanger bougnoule. La lune, j'aime plus, je vous la laisse. Je m'endors sous doré, sous nul. Je suis ni de chez moi, ni de chez vous. Elle veut la bise avec que je la baisse. Je connais la route, je connais l'adresse. Je t'encule sur le continent d'Hadès. Sale comme ta neige, neige courte. Forte comme la peuf, j'écoute. Je tire la gueule, je n'écoute que mon âme seule, mec tout. Je vis dans un rêve érotique où je parle peu mais je caresse le monde. Je meurs dans un cauchemar exotique où la terre ressemble à ma tombe. Igo, pourquoi toi tu parles en ego? Si ça se tue, ouais, dis-moi qui signe. Pas d'honneur, toi tu sens d'ici. Wallah, baba, m'a dit mon fils, non, non. Toi pas calculer ses pétales. Moi j'ai donné pendant longtemps, puis j'ai perdu mes pétales. ODD, je la passe la détail, la paix coule, la viscère, des regrets dans ton bébé. Je sors de chez toi, je reprends ta voiture mal garée, puis je retire ton PV. Je recherche un billet, des affaires, des plans dans la planque, un peu trop peiné. Je fais un bisou à mes cafards dans la cave, justice les pectoraux gainés. Les bacs que t'aimas parce que les Yankees ne tomberont jamais sans messagerie. Un poteau démarre dans la jungle, j'y suis H24, j'y fais des singeries. La rue, je la dévale à toute allure avec du Gucci comme Mitch. Je me promène dans les beaux quartiers avec le seum qui fait peur aux riches. Que la famille, personne ne nous inquiète jusqu'au dernier gramme. Toujours dans mon enfant parce que je suis baisé par Paname.
Sans le bénéfice de la rue, j'aurais jamais négué le gramme.
Sans patrimoine, pas comme Hugo habité.
y'a du sang vidé. Oh dédé, dédé, deuxième negré, j'suis forcé. T'as reconnu le cri côté animal, merde j'connais le prix, le canon animal. Oh dédé, que la famille dans le bâton te la pousse d'aide. Oh dédé, pas mélanger, cœur d'étranger, rien n'a changé. Ce qui doit arriver, va arriver, yeah. C'est peut-être mon dernier album, peut-être ma dernière putain, peut-être mon dernier sourire de toi. Dans mon gars, pas plus de haine que d'amour que j'arque entre mes tours. Moi, du après minuit, je sors casser mon tour sur un nuage de l'enfer. Viens, se casse mon frère, avant qu'on se perde. Oh Dédé, je la passe la tête, la paix coule, la vie sert des regrets devant ton bébé. Je sors de chez toi, je reprends ta voiture mal garée, puis je retire ton PV. Je recherche un billet, des affaires, des plans dans la planque, un peu trop peiné. Je fais un bisou à mes cafards dans la cave, justice les pectoraux gainés. Les bacs que t'es ma parce que les Yankees ne tomberont jamais sans messagerie. Un poteau démarre dans la jungle, j'y suis H24, j'y fais des singeries. La rue, je la dévale à tout à l'heure avec du Gucci comme Mitch. Je me promène dans les beaux quartiers avec le seum qui fait peur aux riches.
Penser, en somme, que la conscience d'être libre en 1940 ou 42 était la garantie même, garantie intuitive de liberté. Maintenant, ça me paraît un fait qui certainement implique la liberté, mais ce n'est plus ça, parce que la vraie liberté ne se saisit pas. Elle est en effet quelque chose qui est un échappement à certaines conditions de l'histoire, qui est donné dans certains cas, qui d'ailleurs ne peut être que par rapport à ces circonstances, enfin, comme je l'ai dit, on se fait à partir de ce qu'on vous a fait. Et ça, c'est important parce qu'effectivement, ce qu'on vous a fait compte. Et on ne se fait jamais qu'à partir de là. Donc, la personnalité dans laquelle on a mis la liberté, ce que j'appelle la personnalisation actuellement, implique nécessairement le conditionnement antérieur. Ainsi, Flaubert était libre de devenir Flaubert, mais il n'avait pas tellement de possibilités en dehors, il en avait quelques-unes. Celle d'être rien du tout qu'un bourgeois droit, ou celle d'être un mauvais médecin, et puis celle d'être Flaubert. Donc, le conditionnement historique existe à chaque instant, lequel on peut contester, mais il n'en est pas moins vrai. Même les gens qui contestent leur formation, comme aujourd'hui, n'en sont pas moins nés avec cette, du moins victimes de cette formation. Et elle se retrouvera dans la manière même dont il l'a nié.
Nous venons d'entendre Jean-Paul Sartre qui parlait du l'être et le néant. C'était au micro d'Alexandre Astruc en 1980. Et je lis votre dernier livre, Arthur Lockman, Toucher le vertige, aussi comme la propre liberté de devenir vous-même après bien des épreuves, alors que vous êtes encore très jeune. Le premier livre, vous y expliquiez de manière magnifique et cohérente pourquoi de philosophe vous étiez devenu charpentier. Vous vous affrontiez au vide. Celui-ci, vous racontez comment vous faites une ascension au sommet d'une montagne pour redescendre un peu déçu d'ailleurs. Et
mais très transformé.
Mais très transformé. Et donc j'ai l'impression que vos livres et votre propre existence sont des catalyseurs des différents possibles qui sont en vous et que vous n'avez pas forcément trouvé, comme vient de le dire Jean-Paul Sartre.
C'est vrai, et je le disais tout à l'heure, ce qui m'intéresse dans la philosophie, c'est la façon dont des concepts peuvent s'incarner dans une vie. Mais pour ça, il faut faire l'effort de les mettre en récit, de les situer dans un parcours, dans un moment charnière comme celui-là, ou comme celui de l'apprentissage de la charpente qui a duré plusieurs années. Et donc, il faut en passer par l'écriture d'un livre pour vraiment réaliser comment un concept ou des idées ont pu guider une vie, ou à l'inverse, comment une vie a pu ensuite donner naissance à des idées pour faire naître cet aller-retour entre, pour faire jouer cet aller-retour entre l'abstrait et le concret, entre la vie et les concepts.
L'écriture fait surgir des souvenirs d'une mémoire qu'on croyait enfouie. C'est, je crois, ce qui vous arrive aussi au moment où vous écrivez « Toucher le vertige ». Que s'est-il passé avec cette vieille dame qui s'appelle Irène ?
C'était une des formes de vertige que j'ai expérimenté. Et d'ailleurs, c'est très intéressant ce mot qui désigne aussi bien des vertiges d'origine purement somatique, liés à des dérèglements de l'oreille interne, ou bien une sensation, un vertige perceptif face au vide, et puis un vertige plus existentiel face aux grandes questions qu'on peut rencontrer, notamment à l'adolescence, où le sentiment de la vie, l'adhésion à la vie est sans doute moins fort, moins solide qu'à d'autres âges. Et donc, cette nuit-là, et je le raconte dans le livre, un certain doute de plus en plus envahissant m'a gagné au sujet de l'existence du monde qui m'entourait. Et je commençais à douter un peu à la manière, mais beaucoup moins contrôlée, de Descartes dans les méditations métaphysiques, de l'existence du monde autour de moi. Je remettais en cause l'ensemble des perceptions et je ne trouvais pas de secours en moi-même. Il se trouvait que cette nuit-là, j'étais chez une amie de mes parents, Irène, chez qui je dormais régulièrement, et qui était une sorte d'être de confiance, un référent, une interlocutrice dans cette période, et que je suis allé réveiller dans la nuit pour sortir de mon vertige. Et là encore, l'altérité a joué un rôle décisif pour la sortie du vertige.
Votre livre, Arthur Longman, est aussi une interrogation sur notre contemporanéité et sur ce que nous vivons aujourd'hui. L'été a été meurtrier par les annonces du climat qui se dérègle sous toutes les latitudes et de toutes les manières possibles. Et vous faites allusion justement au vertige du monde dans lequel nous nous trouvons. Et vous faites référence à un philosophe très important pour essayer de penser ce qui nous arrive dans ce présent et peut-être dans ce futur qui est très difficile à maîtriser, y compris intellectuellement. Vous évoquez Bruno Latour. Je vous propose de l'écouter. Il va parler de la perception du monde. C'était à l'occasion de son dernier livre qui s'intitulait Où suis-je ? C'était en février dernier.
C'est pas les vivants seuls sur lesquels il faut se centrer pour pouvoir commencer à sentir cette vibration qui est une vibration morale et en même temps esthétique et politique aussi. Il faut s'intéresser comment les vivants se sont donné des conditions qui, au début, n'étaient pas des conditions favorables. C'est vrai, des bactéries qui font de l'oxygène, qui est d'abord un poison, avant de servir de source d'énergie formidable pour des vivants qui vont arriver après. C'est vrai aussi des humains que nous étions il y a quelques 100 000 années, etc. Les conditions d'existence des vivants dépendent de l'environnement, mais le mot environnement, on voit qu'il n'est pas bon, parce que c'est pas un organisme dans un environnement. C'est un organisme qui modifie l'environnement pour se le rendre favorable, si vous voulez. On a cette idée-là depuis très longtemps, par la notion de niche. Les castors construisent des barrages, etc. Eh bien, il faut étendre cette notion à, non pas la Terre au sens du globe, mais à la Terre au sens de zone critique. Et à ce moment-là, on commence à comprendre où on est. Et ça, c'est un changement que permettent évidemment les sciences de la Terre, mais c'est aussi un changement qu'il faut accompagner mentalement, parce que vous dites, est-ce que c'est une question de connaissance ? Oui, parce que c'est évidemment par les sciences que toutes ces médiations de faits, d'instrumentation est rendue possible, mais c'est aussi essentiellement, je crois que nous en avions discuté d'ailleurs dans une émission avec vous il y a quelques années, une question de comment je ressens toute cette affaire. Parce que être dans l'espace où j'étais il y a 50 ans à Beaune, petit garçon, et l'espace où je suis maintenant, c'est pas du tout les mêmes sentiments. Et donc c'est pas du tout les mêmes affects.
Alors comment penser ce qui nous arrive ? Cela donne le vertige, dites-vous, Arthur Longman. Bruno Latour est un lanceur d'alerte, un émissaire qui, depuis des années, a essayé de comprendre. Et vous, du haut de votre jeune génération, vous allez encore un peu plus loin. Si je vous ai bien compris, vous dites que une des leçons de la pandémie que nous subissons encore aujourd'hui est déjà en train d'imposer des limites à notre horizon vital, et ce, sans que nous nous en rendions compte.
Sous l'angle du vertige, Enfin, on peut dire que le vertige naît quand il y a une rupture de mesure, quand on manque d'étalon de mesure. Et pendant longtemps, le vertige, et notamment le vertige du sublime chez Kant, c'est le passage du fini, d'éléments de mesure finis, d'étalons de mesure finis, à l'infini, l'infini de l'absolu. Et ce qui s'est passé avec le confinement, c'est alors que nous vivions à l'aune de l'infini développement de notre capacité de production, de l'infinie capacité à voyager, à nous déplacer, à consommer. Tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'on allait rencontrer le fini. Et donc, on est passé, non pas par une forme de sublimation, mais par une forme de condensation de l'échelle de mesure qu'est l'infini, l'infini accroissement, aux limites du fini, du monde dans lequel on va devoir vivre désormais.
Et le fini sera encore plus restreint que le fini que nous subissons aujourd'hui.
Que l'infini.
Et ce, sans que des ordres nous soient donnés, c'est l'espèce humaine qui se protège pour pouvoir mettre des limites à ce qui peut l'endommager.
Oui, parce qu'on voit que, alors l'origine de la pandémie est encore incertaine, mais on voit que c'est la réduction des espaces naturels, des biotopes naturels, qui pourrait avoir été la cause de cette pandémie, et ensuite l'absence la circulation planétaire qui a contribué à la diffusion de cette pandémie à la vitesse à laquelle on l'a vu se répandre. Et donc là encore une fois, c'est le passage de l'infini, de la croyance de l'infini, au fini dans lequel on va devoir vivre maintenant, désormais.
Le vertige, c'est donc une épreuve existentielle, c'est une épreuve physique, c'est une épreuve psychique qui remue de l'intérieur très très longtemps et très très profondément. Au cours de cette expérience que vous avez faite, la psychanalyse vous est venue comme aide de compréhension de ce réel qui vous tombe dessus mais sur lequel vous ne pouvez plus rien faire.
Oui, la psychanalyse à ce moment-là, et c'est en redescendant de cette ascension, dans ce moment charnière de ma vie, que j'ai décidé d'entamer une psychanalyse qui m'est aussitôt apparue comme une façon de remettre ma vie en mouvement, alors qu'elle connaissait une sorte de point d'arrêt. Et je crois que c'est ça, ou en tout cas c'est la manière dont j'ai vécu cette psychanalyse, l'analyse que j'ai faite, c'était remettre en mouvement la vie par l'élaboration d'un récit. Et encore une fois, et c'est là que je fais le parallèle entre la philosophie et la psychanalyse sur un plan existentiel, une articulation entre des événements très concrets et des notions abstraites, comme il y en a dans la psychanalyse, à la rencontre desquelles on tisse le récit de sa vie.
Je vais vous citer Arthur Lockman. Et malgré tout, nous avons une certaine assiette. Ce mot est très important, avoir de l'assiette. On parlait d'avoir les pieds sur terre en début d'émission, avoir de l'assiette, c'est par définition ne pas pouvoir céder au vertige. Et malgré tout, nous avons une certaine assiette, un mélange fragile mais stabilisé de perception et de sens qui fait qu'un quotidien, nous tenons le milieu au quotidien. L'un des petits mystères de nos humaines existences tient d'ailleurs à ce que nous parvenions à ne pas nous absorber constamment dans le sensible et le vertige, à ce que nous soyons capables de demeurer ainsi dans la surface humaine des choses, le milieu fragile qu'est notre monde, quelque part entre le tout et le rien, entre l'absurde et le sublime. Mais alors comment on fait pour essayer de conserver son assiette ?
L'une des surfaces humaines des choses les plus courantes, c'est le langage. Si on répète un mot comme le professeur dans la leçon de Ionesco, couteau, 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 on le vide de sa puissance signifiante. Il perd sa force, il sort du langage. Et chaque jour, quand on utilise le langage, on met en mouvement ces mots. On les met en dynamique, on les met en mouvement. Et lorsqu'on s'arrête sur un mot, on sort du langage. Il y a dans cet usage du langage au quotidien, dans cette capacité à rester à cette surface, dans ce mouvement, quelque chose qui m'émerveille chaque jour. Et l'exemple de Ionesco est donc le contraire, l'opposé, cette sortie du langage, cet assassinat symbolique qui survient, que subit l'étudiante. On peut parler, je crois, du langage comme une surface humaine des choses, comme une façon de rester dans ce domaine symbolique humain, très fin, comme un fil au-dessus du vide dans lequel sur lequel on marche et on évolue au quotidien. Voilà, cette surface humaine des choses.
Quelquefois, on se réfugie dans le silence, comme Hölderlin.
Plutôt que de répéter un mot, le silence, oui, maintient sans doute aussi cette surface humaine des choses.
Alors, je voulais qu'on termine cette émission. Arthur Lockman, vous n'êtes pas du tout au courant, mais je pense que vous le connaissez, par un éloge à un grand philosophe qui est mort il y a peu de temps. Sa pensée nous irriguait, à la fois pour penser justement la pandémie. Il a publié plusieurs livres sur la pandémie qu'il subissait encore plus que quiconque, puisqu'il avait eu un cœur greffé. Il a été un des grands philosophes de l'école de Strasbourg. Avec son camarade Philippe Lacoulabarthe, il a enseigné à des générations d'étudiants l'amour de la philosophie, et plus particulièrement de la philosophie allemande, et plus particulièrement d'Emmanuel Kant, que vous vénérez à juste titre. Il s'est éteint donc il y a quelque temps. Je vous propose d'écouter sa voix. Nous allons l'entendre au moment de la parution de son dernier livre. Son dernier livre sonne comme un de vos titres, d'ailleurs, Arthur Lockman. Son dernier livre s'intitulait « La peau fragile du monde ». Nous allons écouter la voix de Jean-Luc Nancy, c'était le 11 mai 2020.
À l'intérieur de nous, l'intérieur, c'est un immense extérieur, c'est tout le dehors. De quoi ? Par exemple, de toute une histoire. Nous, là, nous sommes en France, au 21e siècle. Nous avons derrière nous l'histoire, mais c'est parce qu'il est bien loin d'être seulement l'histoire de la France, qui est l'histoire de l'Europe, qui est l'histoire de l'Occident. Et en même temps, nous sommes jetés, projetés tous les jours, chaque matin, justement, dans le monde entier. Nous avons tout de suite des nouvelles de Hong Kong, de Tokyo, de Melbourne et de Acapulco. Ce que ça veut dire, justement, nous ne le savons pas, ne le maîtrisons pas, mais nous savons d'un savoir très obscur, qui peut-être n'est même pas un savoir, qui est un sentiment ou une sensation et un ressenti, comme on dit toujours. Nous sentons très bien que nous sommes quelque part sur une trajectoire qui n'est pas non plus une trajectoire au sens où on pourrait la calculer et lui voir un point de départ et un point d'arrivée. Mais enfin, il y a quand même une certaine histoire qui en est venu à un point tel que, par exemple, une épidémie soit inextricablement un problème, bien entendu, médical, biologique et vital en ce sens-là, mais en même temps inextricablement un problème économique, social, politique, technique.
Nous attendons d'ici quelques jours le dernier ouvrage qui va paraître de manière posthume de Jean-Luc Nancy, justement sur les dégâts de la mondialisation et ses effets néfastes sur l'environnement, mais aussi sur l'espèce humaine. C'était un grand spécialiste du corps. Il considérait les sens comme possibilité de compréhension de la philosophie. Il a enseigné beaucoup le romantisme allemand, la philosophie, on en parlait tout à l'heure. Est-ce qu'il a été important pour vous, Arthur, Jean-Luc Nancy ?
Je l'ai découvert que récemment, justement, à l'occasion de son livre sur le toucher, qui est paru il y a quelques années. Mais malheureusement, après avoir écrit ce livre, si bien que je n'ai pas pu en tirer profit pour nourrir la réflexion sur le toucher. Donc je n'ai pas bien connu la philosophie de Nancy.
Eh bien voilà, vous allez la découvrir maintenant. Son nouveau livre va sortir d'ici quelques jours. Nous en parlerons ici dans cette émission. Merci infiniment Arthur Lockman pour votre livre qui sort ces jours-ci, donc qui s'intitule « Toucher le vertige » et qui paraît aux éditions Flammarion. Merci beaucoup.
Merci à vous.
When I'm away from you, I'm happier than ever. I could explain it better. I wish it wasn't true. Give me a day or two to think of something clever, to write myself a letter to tell me what to do. You skipped my avenue when you said you were passing through. Was I even on your way? I knew when I asked you to be cool about what I was telling you. You would do the opposite of what you said you'd do, and I'd end up more afraid. Don't say it isn't fair. You clearly weren't aware that you've made me miserable. So if you really wanna know when I'm away from you, I'm happier than ever. Wish I could explain it better. I wish it wasn't true.
C'est avec la voix de Billie Eilish que nous allons nous quitter ce soir. Merci à Victor Ouvrard, qui est à la régie technique ce soir. Merci à Lilian Alaume, qui, comme chaque soir, a réalisé cette émission. Merci à Céline Villegas, Iris Vertanessian, Elodie Royer, et merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux.